11h, vous écoutez Europe 1, belle soirée à vous. Tout de suite, le journal Sophie Tussot.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit. À la une de l'actualité ce soir, les deux équipes ne s'étaient jamais affrontées jusqu'à ce soir. Moldavie-France, dans le cadre des qualifications à l'Euro 2020 de football. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Acte 19 des Gilets jaunes demain et un important service de sécurité déployé pour éviter les violences de la semaine dernière. Des insultes et des coups sur une femme quasiment centenaire. Prison ferme ce soir pour un aide-soignant d'une maison de retraite. Comme tous les vendredis, ils sont descendus pacifiquement dans la rue. Les Algériens ont à nouveau protesté contre le pouvoir en place. Notre envoyé spécial à Alger, dans ce journal. C'est un des événements culturels cette année. L'ouverture demain à Paris de l'exposition Toutankhamon et qui permet de découvrir le trésor funéraire du pharaon. Et puis comme tous les soirs, la bourse avec Claire Lemaître, l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Éric Girard, le directeur général de Carglass, sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
C'est leur premier match de qualification à l'Euro 2020 de football. Les Bleus, champions du monde, affrontent la Moldavie. C'est à présent la seconde mi-temps, Cyril de la Morinerie, et ça se passe plutôt bien.
Oui, ça se passe très bien. Une heure de jeu, 3-0 pour les Français en Moldavie, les champions du monde qui ont pris tout de suite le match à leurs mains avec une large domination, notamment en termes de possession de balle. Et puis à la 24e minute, c'est Griezmann qui a ouvert la voie en marquant son 27e but avec les Bleus en 68 matchs sur une passe de Paul Pogba. Deuxième but inscrit par Raphaël Varane à la 27e minute. C'est un corner de Griezmann, buteur et passeur donc ce soir. Corner de Griezmann, tête décroisée de Raphaël Varane. Et puis dernier but français, le troisième, marqué par Olivier Giroud. Des buts qui ont été inscrits donc en première période, 34e minute. Et Giroud qui égale, très égayé en nombre de buts marqués avec le maillot bleu. 34e but pour Olivier Giroud, troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus pour donc Olivier Giroud. Les Français qui, là, sur cette seconde période, sont toujours très sérieux face à des Moldaves qui ont bien du mal à se procurer une occasion face aux champions du monde. 3-0, l'heure de jeu ici en Moldavie.
Merci Cyril de la Morinerie. Vous nous tiendrez informés de l'évolution du score à la fin de ce journal. Les Gilets jaunes descendront demain dans les rues de France pour le 19e samedi consécutif. Pour le gouvernement, pas question qu'il y ait des débordements comme ceux de la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Un important dispositif de sécurité est mobilisé à Paris, Pierre de Cossette.
Oui, on s'y attendait. L'arrêté signé de la main du nouveau préfet de police, Didier Lallement, est tombé aujourd'hui. Les Champs-Élysées et ses rues transversales sur 100 mètres, les secteurs de la place de l'Étoile et ceux du palais de l'Élysée et de l'Assemblée nationale interdit. Dans ce document de 5 pages, le préfet évoque le risque d'éléments à haute potentialité violente demain. Pour ceux qui braveraient l'interdiction de manifester, ce sera 135 € d'amende. Ailleurs dans Paris, pas de problème, à condition de respecter l'ordre public, écrit le préfet. Tout attroupement sera immédiatement dispersé.
Pierre, le dispositif tactique de maintien de l'ordre a été revu avec un maître mot, coordination.
Oui, l'idée c'est d'être plus mobile pour pouvoir disperser, interpeller les casseurs, être plus réactif avec des ordres clairs venus d'en haut, cette fois un commandement unique à la préfecture de police pour gérer les CRS, les gendarmes mobiles et les troupes de la préfecture, notamment selon nos informations, les braves. Qui sont les braves? Les brigades de répression des actions violentes, acronyme tout fraîchement créé. En tout, environ 3000 CRS et gendarmes mobiles, appuyés demain par 6 drones qui scruteront Paris du ciel. Certains hommes seront aussi dotés de petites bombes aérosols, des produits marquants codés, destinés à rester sur les vêtements et la peau. Ça, c'est pour les enquêtes judiciaires. Des ordres venus d'en haut donc, mais aussi un peu de liberté sur le terrain pour les troupes. C'était réclamé par les syndicats notamment.
Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. En région, des manifestations seront interdites. Place du Capitole à Toulouse, place Péberlan à Bordeaux. Plusieurs zones seront également interdites à Nice et dans ses alentours en raison de la venue dimanche du président chinois. Pour protéger les sites sensibles, le gouvernement a décidé de déployer des militaires de l'opération Sentinelle. Salve de critiques et inquiétudes de l'opposition. François Hollande estime que ce n'est pas à la force Sentinelle de faire le contrôle des manifestations. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, demande aux militaires de ne pas tirer demain, même s'ils en reçoivent l'ordre. Petite mise au point ce soir d'Emmanuel Macron depuis Bruxelles.
Là, il faut que tout le monde garde beaucoup de calme. Et j'ai vu beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'approximations et beaucoup de faux débats. En aucun cas, l'armée dans notre pays est en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. C'est un faux débat absolu. Et donc ceux qui jouent à se faire peur ou à faire peur à certains ont tort. Voilà. Donc les militaires font ce qui est leur tâche, leur mission dans le cadre de l'opération Sentinelle. Nous les avons simplement davantage mobilisés, comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, pour davantage dégager les policiers et les gendarmes. Les policiers et les gendarmes seront, eux, affectés aux tâches de maintien de l'ordre. Donc pas de faux messages et pas de fausses inquiétudes sur ce sujet.
Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Et autre réaction ce soir du président après la décision du Sénat de saisir la justice dans l'affaire Benalla pour faux témoignage. Emmanuel Macron évoque une démarche politique. Écoutez la réaction de Gérard Larcher, le président du Sénat.
Je ne suis pas au spectacle. Je suis dans une responsabilité qui est de présider une des assemblées du Parlement. Et en ces temps de doutes sur la démocratie, il faut faire attention aux mots qu'il utilise. Le Sénat exerce uniquement ses missions constitutionnelles. D'ailleurs, je n'ai pas entendu que nous n'ayons pas respecté la Constitution.
Gérard Larcher, le président du Sénat.
Le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
L'affaire a choqué une femme de 98 ans, battue et insultée par un aide-soignant dans une maison de retraite du Val-de-Marne. Les faits avaient été filmés par des caméras cachées par la famille. L'homme de 57 ans a été jugé aujourd'hui. Le tribunal de Créteil le condamne à 5 ans de prison ferme pour l'une des filles de la pensionnaire. Ce jugement est juste.
Je crois que justice a été rendue. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire parce que... C'était quand même très violent, c'était très violent. Vous n'avez pas pu voir les vidéos, mais les raconter, c'est rien à côté de les voir. Voilà. Il ne reconnaissait pas spécialement les faits, il n'était pas... Les vidéos sont passées, il avait la tête baissée, il ne les a pas regardées. Il a refusé, déjà avec la police, il avait refusé de les regarder, ils l'ont obligé à les regarder. Et là, il n'a pas voulu les regarder. Depuis que la vidéo a été mise dans la chambre de maman... Il nous a été dit qu'il y avait vraiment, tout le monde se méfiait, qu'il y avait vraiment un service qui était très bien maintenant. Tout le monde se méfiait, tout le monde cherchait les caméras dans les chambres. Et en fin de compte, les personnes se tiennent à carreau. Et puis le travail est mieux fait et les personnes sont plus agréables avec les malades.
Témoignage recueilli pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Un peu plus de 2 semaines après l'attaque de la prison de Condé-sur-Sarthe, près d'Alençon, 4 détenus ont été mis en examen ce soir. Ils sont soupçonnés de complicité avec le prisonnier radicalisé qui avait attaqué 2 surveillants. À Utrecht, aux Pays-Bas, 4 jours après l'attentat qui a fait 3 morts, le suspect a avoué devant le juge. Il est poursuivi pour homicide à des fins terroristes. Du nouveau, dans les cartes de réduction pour prendre le train, la SNCF dépoussière ses cartes à compter du mois de mai, Aurélien Fleureau.
Alors pas de révolution à l'horizon, comme l'aurait été une carte illimitée façon TGV Max pour les 16-27 ans, mais une offre plus claire. Toutes les cartes seront au même prix, 49€, et avec la même réduction, moins 30% tout le temps. Et ça c'est pour répondre aux attentes des clients, selon Rachel Picard, la directrice générale de Voyage SNCF.
Les clients avaient tendance à nous dire « il y a énormément d'offres, mais quelquefois c'est trop compliqué, je ne m'y retrouve pas ». Donc ce qu'on a voulu faire avec cette nouvelle carte Avantage, c'est de simplifier, c'est de rendre les choses plus lisibles, plus immédiates, plus faciles à comprendre pour le voyageur, et puis surtout moins cher, donc avec un tarif unique, et puis avec une réduction unique de 30% pour les adultes et 60% pour les enfants. Ça n'est pas contingenté, c'est-à-dire que c'est valable tous les jours sur tous les trains.
Il y aura donc 4 nouvelles cartes Avantage pour les jeunes, week-end, seniors et famille. Le changement principal concerne d'ailleurs la carte famille qui va remplacer la carte Enfant Plus et qui permettra aux parents ou aux accompagnants d'un enfant de bénéficier de moins 30% même quand ils voyagent seuls. Concrètement, pour le trajet du retour après avoir déposé le petit dernier chez ses grands-parents. Autre nouveauté, les billets Prums seront désormais échangeables et remboursables. Et puis la carte fréquence devient la carte Liberté à 399€, soit 50% moins cher. Et surtout, elle sera valable sur tous les trajets en TGV Inouï et en Intercité et pas uniquement sur un seul trajet, comme c'est le cas pour l'instant.
Aurélien Fleureau. La fin du sommet à Bruxelles largement axé sur le Brexit. Pour le président du Conseil européen, Donald Tusk, tout reste encore possible jusqu'à la nouvelle date butoir du 12 avril. Et ce, dans le cas où les députés britanniques n'approuveraient pas la semaine prochaine le traité de retrait. Par ailleurs, en Grande-Bretagne, une pétition en ligne demandant au gouvernement britannique de renoncer au Brexit a dépassé les 3 millions de signatures en deux jours. Nouveau vendredi de manifestation en Algérie. Les rues d'Alger étaient à nouveau noires de monde aujourd'hui. Pas de chiffres officiels. Cela fait maintenant un mois que la population est mobilisée contre le pouvoir en place et la présidence d'Abdelaziz Bouteflika qui dure depuis 20 ans. À Alger, Mathieu Bock pour Europe 1.
Ils sont venus plus tôt que d'habitude, malgré la pluie. Des dizaines ou des centaines de milliers de manifestants. Difficile d'avoir une idée précise. Ici, on nous parle même de millions de manifestants dans les rues lorsqu'on se promène. C'est vrai que le centre-ville d'Alger a été paralysé toute la journée. Les différents cortèges ont crié, chanté et joué de la musique. On a vu des drapeaux algériens à perte de vue sur les épaules, bien sûr, mais aussi accrochés au balcon. Et tout à l'heure, Samir m'a attrapé le bras pour me dire au micro que les manifestants ne lâcheraient pas.
Même s'il y aura des pierres qui tomberaient de l'eau, on est là, on serait là et vous allez, en fait, on se retrouvera, si vous voulez, en fait, chaque vendredi dans cet endroit, jusqu'à avoir nos droits. C'est les mêmes gueules, c'est les mêmes personnes, c'est les mêmes, en fait, ça tourne en rond. Ils jouent, en fait, en cache-cache, en fait, avec le peuple.
Mais d'autres, comme Naïma, ont tenu à préciser qu'ils avaient déjà un plan pour l'après Bouteflika.
On veut d'abord le départ du système actuel et c'est nous qu'on veut construire la nouvelle Algérie, une nouvelle constitution. Et après ça, de cette nouvelle constitution, va sortir le nouveau président. Un candidat qui sera élu librement et dans des élections présidentielles libres et transparentes.
Les manifestants se sont dispersés dans le calme, comme cela a été le cas les semaines précédentes, avant de se donner rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine. Alger, Mathieu Bock, Europe 1.
C'est un trésor funéraire et un trésor tout court d'ailleurs qui est présenté à partir de demain à la Villette. 150 pièces retrouvées dans le tombeau de Toutankhamon, ce pharaon enfant décédé à moins de 20 ans. Des objets incroyables découverts dans la vallée des rois en 1922. Diane Chenouda, on peut dire que cette exposition est tout simplement exceptionnelle.
Ah oui, elle est exceptionnelle cette exposition car c'est d'abord la première fois qu'on peut admirer autant d'objets du trésor de Toutankhamon, 150. Dont une cinquantaine n'était jamais sortie d'Égypte. Alors, même s'il n'y a pas le masque d'or, comme en 67, qui lui ne peut plus sortir, trop fragile comme la Joconde, on a là des objets fascinants. Les gants en lin du jeune pharaon quand il partait à la chasse, admirablement conservés. Et c'est ça aussi qui en fait une expo exceptionnelle. Toutes ces pièces sont presque intactes plus de 3000 ans après, vous imaginez. C'est le cas de ces merveilleuses statuettes en bois doré de Toutankhamon. On voit le jeune pharaon avec sa coiffe et sa lance, debout sur une barque ou sur une panthère. Admirable aussi ce sarcophage miniature qui renfermait son foie, ou encore cette chapelle tout en or qui représente des scènes du jeune roi avec son épouse, scènes de chasse ou scènes de cérémonie, on le voit verser du vin. Enfin, ce sont des trésors qu'on ne reverra jamais plus en France. Car après cette tournée mondiale, ils reposeront dans le nouveau musée du Caire pour l'éternité, un musée qui doit ouvrir fin 2020. Autant dire qu'on va peut-être dépasser le record de 67 au Petit Palais, 1 240 000 visiteurs.
Merci Diane Chenouda. Et pour ceux qui seraient tentés d'aller voir ce fabuleux trésor, l'exposition Toutankhamon à la Grande Halle de la Villette à Paris se tient jusqu'au 15 septembre. On reprend la direction de la Moldavie. La Moldavie qui reçoit la France ce soir. Cyril de la Morinerie, on est toujours à 3-0 pour la France.
Oui, et il reste 20 minutes à jouer. Les Français qui ont marqué grâce à Griezmann, Varane et Giroud, ces 3 buts qui normalement doivent les mettre à l'abri face à cette équipe moldave qui est une petite nation du football. Des Français qui sont extrêmement sérieux, qui nous font plaisir parce qu'ils sont champions du monde, mais ils n'ont pas pris ce match à la légère. Loin de là, avec une deuxième période qu'ils dominent encore dans toutes les largeurs, avec pas mal d'occasions. Pogba, Mbappé, une tête de Giroud qui a été arrêtée donc par le gardien Kocelef, qui joue en Hollande et qui s'est illustré à plusieurs reprises, évitant le naufrage, si je puis dire, de cette équipe moldave qui a effectivement beaucoup de lacunes par rapport à cette équipe française qui est sûre de ses forces, qui est technique, qui est solide, avec un bon Pogba, un bon Papé. Enfin, ils sont tous au rendez-vous, les Français, aujourd'hui. Il y a des changements avec Matuidi qui va être remplacé par Lemar Tovin qui va entrer également en jeu et qui remplace exactement Griezmann. 3-0 pour les Français, 72 minutes de jeu.
Merci Cyril de la Morinerie. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour le score final. La météo, Valérie Darmon, quel temps pour ce week-end ?
Eh bien c'est simple, c'est le printemps, un petit peu plus samedi tout de même que dimanche, avec cette journée qui s'annonce absolument printanière pour tout le monde, un tout petit peu moins mais tout est relatif, sur un petit tiers nord où vous connaîtrez davantage de nuages, notamment de la Manche au Hauts-de-France. Là, les éclaircies vont alterner avec des passages nuageux. Ailleurs, ce sera grand beau sur le reste donc de la France. Très beau temps du matin jusqu'au soir, avec les températures du matin toujours un petit peu fraîches, comprises entre 2 et 6. Et l'après-midi, la douceur qui se généralise avec des maximales entre 12 à Cherbourg et 24 à Nîmes, à Cahors ou encore à Avignon, à Lyon et Biarritz. 21 degrés annoncés. À Paris, à Verdun, à Charleville, à Évreux et à Chartres, 15 degrés. Dimanche, le vent va tourner au nord, sur la moitié nord, qui va d'ailleurs s'ennuager entre la Bretagne et l'Alsace. Le ressenti sera donc plus frais, justement, le long des côtes de la Manche, tout particulièrement jusqu'au bassin parisien, jusque sur les Ardennes et jusque sur les Pays de la Loire. Au sud, la douceur printanière se maintient.
Merci Valérie Darmon. Europe 1. Restez avec nous à suivre dans votre journal de la nuit, la Bourse, avec Claire Lemaître et l'invité éco d'Emmanuel Dutheil qui reçoit ce soir Éric Girard, le directeur général de Carglass. On se retrouve dans un très court instant.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et il est 22h17 sur Europe 1. On fait un point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Sophie.
Alors ce soir, eh bien, les craintes sont déjà de retour à Wall Street.
Oui, machine arrière pour les marchés. Le Dow Jones abandonne 1,77%, 25 502 points. Et surtout, le Nasdaq chute de 2,5%, 7 643 points. Le pessimisme est alimenté par des indicateurs d'activité décevants en Europe et fragiles aux États-Unis. Ça nourrit les craintes d'un ralentissement de l'économie et ça fait chuter les rendements obligataires, les rendements des emprunts d'État. Alors les premières victimes sont les valeurs bancaires. Wells Fargo et JP Morgan lâchent 3%, moins 4% pour Bank of America.
Et l'action Nike pèse aussi sur la cote ce soir.
Oui, moins 6,6% pour l'équipementier sportif Nike, qui a déçu avec ses résultats trimestriels. Et puis les géants technologiques encaissent ce soir le retour des inquiétudes. Apple perd 2%, Microsoft moins 2,6%, Amazon moins 3%. L'euro plonge ce soir, déprimé par de mauvais chiffres pour l'activité allemande. Moins 0,7% donc pour l'euro, qui repasse sous la barre de 1,13$. Et puis à Londres, la livre sterling 7,07%, 1,32$, alors que le Conseil européen a donné un sursis à Londres pour le Brexit.
Alors, ce n'était pas folichon ce soir à Wall Street et la fin de semaine est également assez délicate pour le CAC 40.
Oui, avec un coup de pression comme à New York pour le marché parisien, le CAC décroche de 2,02%. Il tombe à 5 270 points et le bilan hebdomadaire est négatif également pour l'indice parisien avec une perte de 2,5% sur la semaine. Le compartiment bancaire recule encore, comme à New York. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale ont perdu plus de 3%. Et puis la fin de semaine est difficile aussi pour Total, qui perd 2% et qui vient de se faire dépasser par L'Oréal au rang de seconde capitalisation parisienne. Total, le groupe pétrolier, est donc désormais troisième et c'est le géant du luxe LVMH qui est en tête. Et
finalement, il y a très peu de résistance. Ben voilà, le lapsus. Il y a très peu de valeurs qui ont résisté ce soir à Paris.
Oui, parmi les rares valeurs dans le vert, on retiendra Korian qui profite d'une note positive des analystes de Crédit Suisse. Les marchés européens ont fini dans le rouge vif. À Londres, le FTSE chute de 2%, moins 1,6% pour Francfort, moins 1,7% pour Madrid. Milan et Zurich perdent 1,4%, Amsterdam moins 1,2% et le CAC 40 flash 2%. Il clôture la semaine à 5 270 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Vous retrouverez la bourse lundi soir, bien sûr, sur Europe 1. 22h20, l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Dutheil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Éric Girard, le directeur général de Carglass.
Bonsoir Éric Girard. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Carglass. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter aujourd'hui Carglass. Mais si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que malgré tout, vous gardez votre cœur de métier, le bris de glace, mais vous allez quand même tout changer. Vous lancez Carglass Maison. Grosso modo, vous devenez le dépanneur à tout faire à la maison, puisque vous serez peut-être là pour changer les vitres, mais aussi pour faire de la plomberie, de l'électricité. Ouais. Pourquoi donc cette évolution ?
Alors bon, c'est toute une réflexion un peu longue, mais pour faire simple, en fait, au-delà du fait que nous remplaçons des pare-brises, que nous réparons des pare-brises, on considère que notre ADN, plus que la partie technique, c'est le service que l'on rend aux consommateurs. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, sur un marché qui n'est pas forcément très très dynamique, et on s'est posé la question de savoir, mais où peut-on aller ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir diversifier notre activité, aller chercher des relais de croissance ? Quand on s'est posé cette question, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous anime ? Et ce qui nous anime au sein de Carglass, c'est un petit peu notre raison d'être, c'est de faire la différence pour nos clients, faire la différence pour nos collaborateurs, faire la différence avec une réelle attention. Donc la qualité du service que l'on apporte est vraiment très importante. Et on pense être très légitime dans le service que l'on apporte aujourd'hui dans la réparation et le remplacement automobile. Et on a fait plein d'études pour savoir un peu où on allait, et on s'est dit, mais voilà, il y a un marché qui aujourd'hui est un marché extrêmement peu structuré, qui est difficile pour le consommateur, parce que quand vous avez un problème de plomberie ou un problème d'électricité chez vous, vous dites, mais à qui je vais faire appel ?
Il y a très peu de grosses marques connues qui sont présentes.
Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune entreprise nationale, il n'y a aucune marque, et il n'y a pas de relation de confiance sur ce marché entre un consommateur et la personne qui va venir chez vous, là en l'occurrence, qui vient chez vous. Et on saura probablement, en tant que Carglass, apporter tout notre savoir-faire, et en particulier ce savoir-faire de service.
Mais qui vont être ces plombiers, ces peintres, ces électriciens, ces vitriers ?
Là encore, quelque chose d'assez novateurs pour le marché, ce seront des salariés intégrés. Carglass a toujours construit
c'est-à-dire
son développement.
On n'est pas sur des auto-entrepreneurs, c'est on vraiment pas des salariés Carglass.
On n'est pas sur des auto-entrepreneurs, on n'est pas sur des franchises, on n'est pas sur des plateformes d'intermédiation qui vont répondre à votre besoin en vous proposant un acteur. Nous, on va intervenir avec nos propres salariés. D'ailleurs, Carglass, encore une fois, et ça c'est très unique dans le monde de l'automobile, nous ne sommes que des salariés, que des corporates sur la totalité des centres qui nous appartiennent. Donc ça, c'est très très important parce que si vous voulez garantir le standard de votre intervention, si vous voulez être convaincu que le service que vous allez apporter, où que vous soyez en France, soit le même, avec cette qualité qui, que l'on souhaite, il est important d'avoir, de maîtriser cette qualité, de maîtriser ces standards et donc d'avoir des salariés.
Vous avez racheté une plateforme, comme vous le dites.
Pas une plateforme, une entreprise.
Vous avez mis un petit peu de temps avant de commencer à communiquer dessus pour véritablement dire, voilà, nous, on change le nom, ça va s'appeler Carglass Maison. Oui. C'est parce que vous vouliez voir comment ça allait prendre, vous vouliez organiser tout ça. Donc, quels sont aujourd'hui les premiers retours ?
Alors, aujourd'hui, les retours, ils sont extrêmement faibles. Parce que pour avoir des retours sur Carglass Maison, il faut faire connaître Carglass Maison. Et donc, il faut faire de la publicité, il faut faire des opérations marketing qui permettent effectivement de faire connaître la marque. Mais notre espoir, notre intention, c'est de faire en sorte que Maisoning, qui est aujourd'hui Carglass Maison, devienne le Carglass de la maison. Et donc, bien entendu, dans le futur, lorsque notre service sera à la hauteur de ce que nous souhaitons, on communiquera de façon assez forte pour que justement, on devienne un choix naturel, comme on l'est aujourd'hui dans l'automobile.
Si Carglass est très connu, c'est sûrement pour votre savoir-faire, mais aussi pour la réussite de votre slogan publicitaire. Tout le monde, depuis le début de cette interview, a obligatoirement en tête Carglass répare.
Carglass remplace.
Vous cherchez la même chose pour Carglass
Exactement.
Maison.
Exactement. Ça va être
quoi,
alors ? Et vous avez très bien commencé la question, si je peux me permettre. Parce
J'essaye
que...
de temps en temps.
Non, mais vous avez très bien commencé parce que c'est extrêmement important. On ne peut avoir une communication forte sur une marque qu'à partir du moment où on a un service qui va pouvoir être en adéquation avec ce que l'on véhicule. Carglass, aujourd'hui, il y a une adéquation parfaite entre le service, la marque. Carglass Maison, le service, il est là, mais on doit le développer, on doit le roder pour qu'il soit parfait vis-à-vis du consommateur. Et là, on communiquera.
Vous avez trouvé votre slogan publicitaire ? Vous êtes en train de le chercher encore ?
Alors, je ne suis pas sûr que l'on ait trouvé parfaitement le slogan publicitaire, mais je peux vous assurer qu'il sera peu éloigné de celui qui existe aujourd'hui pour l'automobile. Quand on a un slogan aussi fort, quand on a une marque aussi forte, avec une notoriété aussi présente, ça serait complètement idiot d'aller chercher une autre identité
finalement,
de marque.
Finalement, c'est la même chose. Quand on est un plombier, on répare et on remplace.
Exactement.
Si, ce qui était aussi très intéressant, c'est ce que vous disiez au démarrage, c'est que vous étiez contraint de faire ce mouvement. Parce que moi, je l'ai découvert en préparant cette interview, mais le marché du brise-glace est déjà tout petit marché, et surtout est un marché baissier, en baisse structurelle.
Ouais.
Mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les pare-brise sont tout simplement
Déjà dans un ensemble, hein, le monde de la réparation automobile, la sinistralité, la carrosserie par exemple, donc le vitrage, hein, qui est une part de la carrosserie, est en déclin, et en déclin structurel. Il y a de moins en moins de sinistralité, donc c'est très bien.
C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'accidents.
Il y a de moins en moins d'accidents, parce que les véhicules aujourd'hui ont une sécurité passive qui, année après année, s'améliore. Bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais c'est une réalité. Alors, contraint, non. Mais en tout cas, si on se projette, on se dit, dans les 5, 6, 7 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours du brise-glace, c'est un fait.
Mais en tout cas, il est important de développer quelque chose à côté.
Autant qu'il y en a aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, c'est un petit marché. Le marché du brise-glace, c'est 1,2 milliard d'euros. C'est petit. Le marché de la réparation, de la rénovation dans l'habitat, c'est 12 milliards, c'est 10 fois plus. Et lui, pour le coup, il n'est pas en déclin. À minima, il est flat, mais il est plutôt en croissance parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive dans la maison, la technologie, et puis les besoins et l'appétence pour les Français que l'on connaît, hein, qui est sociologiquement très forte, de pouvoir être propriétaire, fait que de toute façon, c'est un marché qui sera dynamique.
Vous allez vous baser sur vos garages, vos agences Carglass, et on retrouvera aussi Carglass Maison là?
Alors, quand c'est possible, oui, bien sûr, on profitera de notre réseau. On a un réseau important, on est présent dans toute la France, 460 centres. Bon, pour autant, ce sont des métiers différents, ce sont des marchés différents. On n'a pas forcément les mêmes besoins, mais bien entendu, on va bien entendu chercher à mutualiser et à massifier, en fait, déjà tous les actifs que l'entreprise peut avoir.
On avait vu quand les auto-entrepreneurs étaient arrivés sur le secteur du bâtiment, le monde du bâtiment s'énervait contre cette nouvelle concurrence. Ils vous regardent comment ? En se disant, allez, bien malin celui-là, il va...
Les auto-entrepreneurs ?
Non, le monde du bâtiment. Ces plombiers, ces peintres, ces électriciens.
Je pense que le marché de l'habitation, enfin de la réparation, est en train de bouger, comme d'ailleurs le marché de l'automobile a bougé il y a 20, il y a 30 ans. Et il y a quand même énormément de tentatives, d'initiatives, justement pour faire en sorte que des entreprises puissent émerger sur ce marché et donc aillent à l'encontre de, non pas de tous ces auto-entrepreneurs, parce qu'on en a besoin aussi des auto-entrepreneurs, mais de tous ceux qui opèrent dans des conditions qui ne sont pas forcément toujours claires.
Eh bien, on vous réinvitera pour faire un point sur ce gros mouvement donc du côté de Carglass qui lance Carglass Maison. Un grand merci Eric Girard d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Nous, on se retrouve lundi, 22h20.
Merci à vous.
Et merci à vous Emmanuel Duteil, très bon week-end, c'était l'invité Echo. Vous pouvez bien sûr écouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain, tout de suite. À la une de la presse demain, une commémoration, un an après, la France se souvient du colonel Bertram. L'attaque du 23 mars 2018 à Trèbes étant une du Figaro. Cette attaque qui a meurtri une région qui se croyait protégée du terrorisme. Le Figaro Économie revient sur la hausse probable des prix de l'électricité en juin. Au début de l'année, confronté à la crise des gilets jaunes, Édouard Philippe avait décidé de geler toute hausse. Eh bien, François de Rugy a indiqué aujourd'hui que cette majoration interviendrait sans doute à la mi-2019, à quelques heures d'un nouveau week-end d'agitation sociale. Le timing de cette annonce peut surprendre, note le Figaro Économie. Brexit, Theresa May à qui tout double, écrit West France. Les Européens ont donné 2 semaines supplémentaires à la Première ministre britannique pour sauver son accord. Tous les scénarios sont possibles. À 2 mois des élections européennes, la Croix revient sur ce qu'a changé l'Europe en 5 ans de mandat. Les eurodéputés ont voté malgré les tensions, plusieurs textes importants en matière environnementale, sociale ou économique. Le journal du Centre se pose la question des maisons de retraite, les prix dans la Nièvre, des prix totalement disparates qui peuvent varier entre 48 et 91 euros par jour. Et puis Libération, Mais à sa une, cette fabuleuse exposition qui s'ouvre demain à la Grande Halle de la Villette à Paris. Par ici la momie, tout en Camon, un demi-siècle après l'expo de 1967, le pharaon Star revient à Paris. Il est 22h30, on va retourner en Moldavie retrouver Cyril de la Morinerie. Cyril, on l'entend, le score vient de bouger.
Eh bien écoutez, les Bleus mènent 4 buts à 1 à l'instant, but moldave. Alors je ne sais pas qui l'a marqué, en tout cas c'est un but moldave qui vient d'être validé. Côté français, eh bien, il menait 4-0 après ce quatrième but marqué par Kylian Mbappé, une mauvaise relance de la défense et un peu voilà, d'approximation, en tout cas un manque de vigilance côté français lors de ces derniers instants avec une frappe et un ballon qui heurte le poteau. Et le joueur moldave eh bien, qui marque pour la Moldavie. Bon, les Français vont de toute façon s'imposer grâce à Mbappé, Giroud, Varane et Griezmann. 4 buts à 1, il reste 1 minute à jouer. But de Ambros pour cette équipe moldave. 4 buts à 1 pour les Français à 1 minute de la fin du temps réglementaire.
Merci Cyril de la Morinerie en direct de Moldavie pour Europe 1, 22h31. Et c'est à présent l'heure de la libre antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci, et vous ?
Ça va très très bien.
Rendez-vous dans une petite demi-heure maintenant pour le prochain point.
À tout à l'heure.